Effondrement et philosophie. Une rencontre avec Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. Un entretien réalisé en marge du documentaire « Tout commence » de Frédéric Chauffa.
Le moment dans lequel on est, il est aussi passionnant. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un moment de bascule, pas simplement dans l'histoire des hommes, mais même dans l'histoire de la Terre, mais avec un croisement entre l'histoire des hommes et l'histoire de la Terre. Donc effectivement, bon, pour dire ça de manière moins cynique, pour quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, alors on lui dirait, vous arrivez à un moment extraordinaire, où là, on va voir se révéler, en fait, disons, ce que l'espèce humaine a dans le ventre. Ce monde est un monde de paradoxes. Ce monde est un monde de paradoxes parce qu'il a connu pour une partie de lui-même, de loin pas tout, disons, pendant plusieurs décennies, voire même plus d'un siècle, ils ont une vie relativement facile, en tout cas depuis les années 50, pas tellement avant, pour une partie socialement large, mais mondialement étroite, c'est-à-dire la partie des classes moyennes, des pays industriels, qui a sans doute été un des moments, peut-être même le moment le plus facile de l'histoire, avant peut-être qu'on puisse fantasmer sur les peuples premiers, etc. Mais en tout cas, par rapport aux civilisations historiques, disons, de l'après-guerre jusque vers la fin des années, même le début, je dirais, nous, des années 90, 90, on a une espèce de période bénie où on a l'impression, si vous voulez, que... Alors, du point de vue occidental, attention, ailleurs, ça rigole pas trop, hein, mais de ce point de vue-là, on a l'impression qu'on est dans une espèce de consumérisme apaisé, avec une organisation démocratique assez bordée, avec des extrêmes qui sont vraiment rejetés aux extrêmes, une institution politique qu'à chaque élection, on sanctionne de façon positive par un grand taux de participation, et on a l'impression que cette espèce de consumérisme apaisé, cette espèce de social-démocratie bontin, c'est un peu l'horizon pour le monde entier. Et on imagine, pensez à Fukuyama, on imagine évidemment que le reste du monde n'a qu'un désir, c'est de nous rejoindre. Et ça, c'est il n'y a pas très longtemps, c'est il y a 25 ans. Et en 25 ans, le monde a complètement basculé. Il a basculé de bien des manières, il a déjà basculé parce que cette espèce d'Occident fier de lui aujourd'hui se rend compte que finalement la civilisation qu'il a bâtie, c'est pas tout à fait une civilisation, puisqu'elle nous conduit à détruire nos propres conditions de vie. Cette civilisation était très fière de ses sciences et de ses techniques, et on voit bien que ces sciences et ces techniques, bon, effectivement, elles sont très intéressantes, mais elles ne permettent pas de bâtir une civilisation. Elles n'empêchent pas l'empoisonnement du monde, elles n'empêchent pas le changement climatique, l'effondrement du vivant, l'empoisonnement de l'air, de l'eau et des sols, etc. Et puis, donc là, on découvre tout ça, le rapport de force change entre l'Occident et le reste du monde, et on arrive aujourd'hui à une période extrêmement trouble, incertaine, où, disons, la positivité du devenir n'est plus très perceptible, où on voit plutôt au contraire arriver des chocs successifs, et qui remettent en cause... un peu nos repères classiques et essentiels. Et du coup, bien c'est une période où aussi il va falloir tout rebâtir. Alors quand on est très jeune, on peut être effrayé, et à mon avis à raison, de l'aspect matériel dégradé, du fait que les conditions de vie sur Terre, eh bien... elles sont vouées à se péjorer, même s'il nous reste des marges importantes pour empêcher d'atteindre un seuil qui serait pas trop dangereux. Et puis en même temps, il y a l'autre côté de la médaille, comme toujours dans les réalités humaines. Il y a le côté exaltant, qui consiste à se dire, j'arrive à une époque charnière, à la différence de la génération précédente, moi je vais devoir reconstruire, peut-être donner plus de sens au monde qu'il n'en avait, peut-être établir plus de justice. En tout cas, je devrais de toute façon contribuer à bâtir une civilisation nouvelle. Donc on a ces deux côtés, et quand on est très jeune, il ne faut pas qu'on oublie l'autre côté. C'est-à-dire que c'est sûr, c'est dur, c'est difficile, c'est menaçant, mais on a les marges pour quand même construire quelque chose qui pourrait être très intéressant, en dépit de cette dégradation du système Terre. On voit bien que nos institutions démocratiques, déjà ne fonctionne plus très bien, la participation est vraiment en général très basse, la confiance dans les institutions, elle, est au plus bas. Bon, là, le mensonge en politique, c'est un grand classique, mais là, on a parfois l'impression qu'il est quasi systématique chez certains. Et il y a une perte de repères, et d'ailleurs, en fait, on a une dissémination des vecteurs d'information, on a la possibilité de s'enfermer dans des niches. Quand vous voyez qu'au monde, il y a probablement des dizaines de millions de platistes, de gens qui pensent que la Terre est plate, pour imaginer que la Terre est plate, il faut penser que votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vos instituteurs, vos professeurs, l'académie, la science, toutes les institutions, tous les médias vous mentent. C'est quand même dingue d'en arriver là. On est dans cette période extrêmement, extrêmement trouble. Donc on voit bien qu'on a une forme d'effondrement politique, d'effondrement moral. On voit bien sur le plan économique qu'il y a, pour le grand nombre, il y a un effondrement. En ce sens que les classes moyennes voient leur niveau de vie, en tout cas en Occident, leur niveau de vie baisser. La partie de l'humanité qui était arrachée à l'extrême pauvreté, c'est pratiquement essentiellement les Chinois. Très peu ailleurs. Donc là, on a une situation morale, une situation politique, une situation économique qui est quand même, disons, dégradée. Et à l'arrière-plan, on sait qu'on est confronté à un effondrement du vivant, on sait qu'on a plus de 10 ans si on veut éviter les 2 degrés avec tout ce que ça implique. En tout cas, de se mettre dans une dynamique pour les éviter, on pourrait les avoir entre 40 et 2050. Donc voilà, on sait que sur le plan des ressources, il commence à y avoir des tensions. Bon. On voit que partout, ça je l'ai dit, ça fait partie de la dégradation politique des partis populistes, avoir le vent en poupe, soit accéder au pouvoir, soit en être proche, en tout cas pouvoir prétendre y accéder un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est ce contexte dont on peut dire qu'il est dans une dynamique d'effondrement successif. Et on commence par les effondrements moraux avant d'avoir des effondrements physiques. Moi, je n'entends pas l'effondrement à la Hollywood, c'est du jour au lendemain, il n'y a plus rien dans les supermarchés. Non, c'est des chocs, c'est des difficultés, c'est peut-être des pénuries, d'ailleurs, effectivement, mais qui seront successives, qui vont s'ajouter. C'est pas le jour d'après, si vous voulez. L'effondrement au singulier, je pense qu'il s'est un peu raffiné, nuancé, mais de toute façon, on est dans cette dynamique d'effondrement, ça, j'ai pas de doute là-dessus, je suis d'accord avec eux. Après, comme je vous l'ai dit, on peut entendre de façon un petit peu différente, et quand on voit le dernier livre de Pablo Servigne, Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens, leur idée, une autre fin du monde est possible, c'est justement dire, ok, on a ces difficultés, mais attention, ces difficultés, elles sont si grosses, de choses qui peuvent être positives, qui peuvent donner du sens, et ça vaut toujours la peine de vivre. En fait, le problème, c'est qu'il y a une part de la dégradation qu'on ne peut plus qu'accepter. Et elle est double. Premièrement, la part qu'on ne peut plus qu'accepter, c'est que de toute façon, quand bien même on commencerait à l'échelle globale à devenir vertueux demain, eh bien, de toute façon, il y a les dégradations qui sont déjà là, des dégradations qui sont en cours, c'est-à-dire que la dynamique qui les crée est là, même si leurs effets ne sont pas visibles maintenant, ils sont visibles dans 20 ou dans 30 ans. C'est bien le problème qu'on a avec les questions d'environnement. Donc, par rapport à ça, le deuil est obligé. Ensuite, si, et puis on est tous un peu attachés à une certaine forme de facilité de vivre matériellement parlant, disons, le monde de l'avenir reste d'être moins gadget et donc moins facile matériellement à vivre. Là, c'est les deux parties pour lesquelles on a à faire un deuil et on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Mais en revanche, l'accepter là, c'est se donner aussi l'énergie pour refuser que cette dynamique empire. Et ça, c'est très urgent de se mobiliser radicalement. Et puis, c'est l'accepter pour se donner l'énergie d'aller voir ailleurs, de ne pas se révolter ou se rebeller pour simplement maintenir le présent. Mais se rebeller, se révolter pour essayer d'imaginer un monde différent et pas s'accrocher à l'ancien. Et c'est pour ça que la partie deuil est vraiment très importante. C'est une espèce de sursaut, hein. On l'a vu émerger à l'automne 2018, cette génération, on ne l'a pas vue avant. Ce n'est pas un hasard qu'elle ait émergé à l'automne 2018, parce qu'elle, comme nous, elle l'a bien vu. Et il n'y a pas que cette génération qui l'a vu, que le monde était en train de changer. qu'on avait été confronté à des vagues de chaleur et de sécheresse dans tout l'hémisphère nord, du mois de mai au mois d'octobre. Ils ont entendu qu'il y avait des feux, des incendies de forêt en Suède, même s'ils ne sont pas excellents en géographie, ils vont même se rendre compte quand même qu'il y a un problème. Ils ont appris aussi après que les Suédois devaient exterminer une partie de leur cheptel par manque d'eau. Et c'est pas un hasard que Greta Thunberg soit suédoise. Ici en Suisse, ils ont bien vécu ça. Il y a des endroits où ça a été assez dur. Comme la plupart des gens, j'imagine, quand vous n'avez pas de clim, parce qu'il y a une meilleure chose écologiquement parlant, et que vous habitez en ville, vous avez eu des moments très difficiles l'été dernier. On quasi suffoquait dans les maisons. Donc je pense que ça a été un moment extrêmement important. C'est le moment où on bascule, où, on passe du discours qu'on entend d'une oreille distraite, qui vous traverse l'esprit sans vraiment vous imprimer, à un moment où ce discours, cette fois-ci, il vient s'enraciner sur un terreau d'expérience. Et ça a vraiment fait basculer les choses. Et là, je le constate, il y a vraiment aussi un basculement politique dans l'appréciation, au sens général, dans l'appréciation de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut accepter, etc. Donc cette génération, elle est en quelque sorte le fleuron de ce moment très très particulier. Et puis, elle est étonnante. Parce que, si vous voulez, les générations ont souvent un discours un peu cucu les unes sur les autres. Les vieux sont tous des vieux cons et les jeunes des abrutis, vous connaissez ça. Et là, on a vu d'un seul coup une génération pourtant élevée dans le consumérisme, dans une certaine forme de facilité, avoir une conscience d'une acuité extrêmement étonnante. Et là, je vais reprendre les propos d'un jeune activiste qui vous est cher, qui dans son discours, dans une conférence de presse, en vient à dire à 17 ans que sa génération est capable de se sacrifier pour sauver la vie sur Terre. Enfin, c'est hallucinant de dire ça à 17 ans. Ça devrait faire honte au gros plein de soupe dans son 4x4 qui lui veut pas bouger. Et évidemment, moi, à cet âge-là, à l'âge de 17 ans, alors bon, c'était une époque révolutionnaire, hein, c'était à la fin des années 60, on se projetait dans un avenir qui n'était pas un avenir individuel, qui était un avenir politique, collectif. C'était vraiment une génération de ce côté-là, mais c'était confortable d'une certaine manière. Là, c'est tragique. Et il y a un sentiment du tragique qui est très fort, et à 17 ans, c'est quand même extrêmement particulier. Et ça devrait inciter tous les adultes à réfléchir. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on en est arrivé là ? Alors, ce n'est pas une question de culpabilité, hein. Je pense que, si vous voulez, pendant très longtemps, la plupart des gens, on ne savait pas, on ne comprenait pas. Et quand bien même on savait, on le voit, par exemple, le premier rapport là, dans les années 60, rédigé par Revel et Suss, remis au président des États-Unis sur un futur changement climatique, on voit bien dans leur discours que c'est un objet théorique distant. Et encore, une dizaine d'années après, quand on regarde le fameux rapport Meadows, hein, qui imagine que les cours vont s'inverser entre 2020 et 2040, je vous rappelle qu'on est en 2019, eh bien, c'est encore assez lointain. Et l'esprit humain est ainsi fait qu'il ne suffit pas de connaître une chose pour comprendre. On comprend vraiment lorsqu'à la connaissance, lorsqu'à des éléments de savoir abstrait, s'adjoignent un tuf sensible. Et là, on rentre dans ce moment. Et c'est maintenant qu'on commence à tous comprendre. Pas tous encore, mais la jeunesse comprend plus vite et plus radicalement. On pourrait presque dire par instinct de survie que les autres. Mais on aimerait bien que ce savoir et sa sensibilité, elle percole dans toute la société. Et on voit bien qu'il y a une partie des adultes qui l'ont vraiment compris et qui appuient, mais à fond, cette jeunesse. Ça, c'est assez étonnant. C'est pas aussi fréquent que ça dans l'histoire. C'est un moment, s'il n'était tragique, dont on pourrait dire qu'il est assez fabuleux. Alors, que peut la philosophie ? C'est une belle question, mais assez difficile. La philosophie, c'est comme l'image de la chouette de Minerve le fait comprendre. C'est l'oiseau qui s'envole au crépuscule, c'est-à-dire quand la bataille est finie. Alors là, non, je suis quand même obligé de prendre un petit envol un peu plus précoce. Mais ça veut dire qu'on arrive derrière les autres disciplines. Ça veut dire que la manière dont on capte le monde, on n'a pas la prétention de le capter à la source. On a la prétention de capter ce que les autres captent et de commencer à le construire et à l'interroger. Et donc là, ben la philosophie, elle a beaucoup de choses à faire. Elle a beaucoup de choses à faire pour éclairer notre relation aux sciences, éclairer notre relation aux techniques. Moi, je me suis beaucoup occupé de questions de risque, de questions de précaution, de comment on pouvait modifier la Constitution. Je m'ai bien mis en évidence, si vous voulez, que le gouvernement classique représentatif, qui était vraiment lié au court terme, et en fait sur un cahier des charges moderne, qui était un cahier des charges consumériste, n'était pas apte à prendre les problèmes à bras-le-corps. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas fait. Et donc, j'ai essayé de réfléchir aussi à ça. Puis ensuite, on est, alors pour un philosophe, c'est une époque bénie, parce que c'est une époque où, si vous voulez, l'urbanisme classique des choses est en train de s'effriter. La manière dont on a rangé le monde, dont on l'a rangé dans des cases, tout ça s'effondre. Et donc, c'est une époque bénie, parce qu'on doit réfléchir et proposer des cadres nouveaux. Donc, la philosophie, dans une époque comme ça, elle a sans doute un rôle plus crucial à jouer que dans une époque où on est bien peinard et on pense que le monde est bien assis et on n'a qu'à attendre la fin tranquillement, en jouissant des aménités de l'existence. Parce que, en fait, si on regarde l'histoire de la civilisation occidentale et si on reprend son référentiel biblique, ce qu'auraient cherché les êtres humains, c'est à s'arracher de la vallée de larmes. Et en s'arrachant à la vallée de larmes, ils ont produit un progrès qui aujourd'hui finit par les dépasser, par ne plus en être un, et puis par aller jusqu'à menacer la possibilité de vivre sur cette terre. Et donc il y a là quelque chose... Alors, on pourrait en vouloir à Dieu, finalement, parce que notre conscience, comme je disais avant, est ainsi structurée, c'est qu'on a compris le moment où notre recherche de confort allait s'inverser en menace de nos conditions de vie, au moment où c'était déjà très très tard, où en fait on était déjà sur les rails des dégradations de l'habitabilité de la Terre. Donc là, on pourrait reprocher à Dieu de nous avoir créé de telle sorte qu'on allait forcément se casser la figure. Ça, c'est la première chose. Autre chose, et c'est pas sans rapport, on est vraiment dans une configuration tragique aujourd'hui. C'est-à-dire que, on est comme dans Oedipe, de Sophocle, on connaît dès le début ce qui va arriver à la fin. Et on fait tout pour ne pas rencontrer son papa, pour ne pas retrouver sa maman, puis finalement, on va finir par tuer l'un et épouser l'autre. Et c'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit, on sait, on a un savoir qu'on n'avait pas autrefois, et pourtant, le train continue à aller à toute vitesse vers le vide ou le mur, comme vous voudrez. Donc là, il y a bien quelque chose de tragique dans l'esprit humain. Il y a quelque chose de très étonnant, c'est que les êtres humains sont vantards, ils vantent leur possibilité d'agir, leur force de décider, leur volonté. Et on voit bien qu'à une échelle collective, on est dans le train. Il y a probablement une locomotive, on ne sait pas exactement où elle est, et il n'y a probablement pas de chauffeur, quoi. Et personne n'a donné un ordre. Voilà. Alors, en même temps, il y a dans cette société des gens qui sont d'un cynisme total. Vous avez des financiers, des industriels qui sont prêts à faire passer leurs intérêts avant tout, qui eux pensent qu'ils vont aller se réfugier, les uns en achetant en Nouvelle-Zélande, d'autres en achetant une maison au Groenland ou alors au Spitzberg. Alors déjà, ce sont des crétins, parce que je suis franchement désolé, il n'y aura aucun endroit, vraiment, si on les écoute eux, il n'y a franchement aucun endroit sur Terre où on sera peinard, et puis les endroits où on le sera, il risque d'y avoir beaucoup de monde à un moment donné. Donc là, on voit une forme de bêtise, c'est-à-dire que le cynisme qu'on gratifie souvent de certaines intelligences, non, il est souvent complètement crétin. Et on voit bien que ces gens-là, franchement, je n'ai pas une estime très forte. Et ce néolibéralisme qui nous a fait venir des gens genre Elon Musk, Bezos, etc., qui sont des espèces d'empereurs romains aux petits pieds, qui, du fait de leur puissance financière, on voit bien que les pauvres ont des cadres mentaux qui explosent et racontent n'importe quoi. Et je ne comprends pas qu'on puisse encore admirer ces gens-là. On a des responsabilités, c'est évident, il y a des gens qui ont plus de responsabilités que d'autres, mais systématiquement elle est partielle, parce qu'à chaque fois, ce que va faire un individu, c'est inséparable sans un contexte,
c'est inséparable sans un héritage. Et même quand on dit, ben non, on ne doit pas parler d'anthropocène, on doit parler de capitalocène. Ben non, je suis désolé. Capitalocène, c'est sans doute juste, mais c'est juste pour un bout. C'est-à-dire que ce qui a permis le capitalisme, c'est sans doute des conditions historiques, étatiques, psychologiques beaucoup plus profondes. Moi, c'est ce que j'appelle la spiritualité dans un de mes livres. Et ben, l'anthropocène, il va aller largement au-delà. Imaginons que notre société s'effondre. Ben, évidemment, il se poursuit. Et il n'y aura plus de capitalisme. Hein, et ça se poursuivra toujours. Donc, en fait, la difficulté, c'est que la chose qui nous arrive n'a aucune désignation exacte. Quand on la nomme, on va en nommer une facette, et d'ailleurs plus particulièrement un moment. C'est ce qui se passe quand on parle de capitalocène. Donc oui, je veux bien être en colère contre le capitalisme, mais c'est personne le capitalisme. C'est, bon, derrière il y a la cupidité humaine, je suis désolé, mais là c'est bien réparti. Et pas forcément chez ceux qui ont le plus d'argent, enfin ceux-là le sont totalement, mais vous pouvez être fauché, être cupide, bon, vous n'avez pas les moyens de vos désirs. Bon, donc c'est compliqué, non, j'ai pas envie d'avoir une... Enfin, il y a, disons, des salopards, oui, ça existe, voilà, mais on leur fait trop d'honneur à s'exciter contre eux. Alors, on sait bien que cette espèce de progrès linéaire par accumulation, celui-là, on doit y renoncer. En même temps, on revient en fait à la source, c'est-à-dire à l'idée d'un progrès moral. Comment on peut mieux vivre ? Et on s'est fait avoir, parce qu'en fait, le bien-être se dégrade dans les pays occidentaux depuis en fait le début des années 70. Il y a un certain nombre d'indicateurs là-dessus. Et puis, cette dégradation s'accompagne même d'un non-sens. Hein, vous savez, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure d'enfants de 13 ans, mais vous savez que, je ne sais pas si ce soit que la France, je pense que c'est l'Europe, mais le suicide chez les très jeunes augmente très sensiblement. Donc, on a une forme de monde de non-sens aujourd'hui. Et ce qu'on peut appeler, pas du tout le progrès au sens que je viens de le dire, mais on peut dire, on peut faire mieux. Et c'est probablement je ne sais pas si c'est structurellement humain, mais en tout cas, compte tenu du passé qui est le nôtre, oui, on a un besoin structurel de pouvoir dire qu'on peut faire mieux. Et je pense que c'est totalement juste et totalement vrai qu'on peut vraiment faire mieux. Mais pour ça, il faut changer nos repères. Et il faut remettre les aspects matériels un peu à leur niveau et pas tout en attendre. Et il faut bien penser que, en fait, si vous regardez les enquêtes, ce qui rend les gens heureux, c'est la présence et le temps passé avec leurs proches et avec leurs amis. Ben, c'est ce que nous disent beaucoup d'enquêtes. Hein? Et que quelqu'un qui est vraiment privé de contact avec son entourage, ses amis, sa famille, etc., c'est plutôt quelqu'un qui va vivre une forme de mal-être. Et donc, il faut à la fois avoir ça en tête, et on a aussi un besoin, on a un besoin de sens, on a un besoin de dépassement, ça c'est ce qui se donne à voir dans la spiritualité, c'est vraiment... chevillé aux êtres humains, et c'est quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. Et donc là, comme on a un monde matériel qui se restreint, qui va devenir plus dur, bah, ça devrait nous amener à aller chercher, à s'étendre, à s'approfondir, tout en ayant un standard matériel qui reste correct. Si on se doit sucer les doigts, c'est sûr que la spiritualité va être assez légère. Mais si on a le nécessaire, bah, au contraire, on peut aller chercher du sens ailleurs. Et ça, je crois que c'est vraiment important de l'avoir en tête et d'être en quête sur ce plan-là. Alors que les technologies nous sauvent, non, surtout le type de technologie qu'on a, qui sont une espèce de montée en puissance. Puis surtout, si on regarde maintenant, l'essor technologique est quand même très lié au numérique, depuis une vingtaine d'années. Et ce qui se passe là est quand même en rupture par rapport à l'histoire sur la longue durée des techniques. Moi, je n'opposerais pas humanité et technique. Hein. Les hommes se sont faits avec et par les techniques. Et de manière traditionnelle, les techniques se sont toujours caractérisées par on va prendre un mot anglais, par une forme d'empowerment, hein, d'encapacitation, c'est assez moche en français, des personnes, des groupes, et par-delà, de l'humanité elle-même. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple avec le numérique, c'est que c'est plus de tout ça qui est en train de se passer. En fait, on a une captation par les techniques de séquences de savoir-faire humain. Les techniques les mangent, les absorbent et les font parfois mieux qu'on ne saurait le faire nous-mêmes. Je donne un exemple. Vous prenez un système d'analyse, un algorithme qui vous permet d'analyser des clichés, par exemple, de cancer, hein, cancer du foie. Bah, évidemment, là où un médecin en verra quelques centaines dans sa vie, eh bien, ce dispositif technique, lui, va engranger des millions de clichés. Et il va arriver à une perception plus fine que celle du médecin lui-même. Mais en fait, si vous regardez par exemple ce qui pourrait se passer avec la 5G, c'est qu'on va faire à votre place tout un tas de procédures. Maintenant, on commence à automatiser toute une série de processus de prise de décision. Et donc là, je trouve ça assez paniquant et assez grave. C'est-à-dire qu'on a un progrès qui ne donne plus lieu à l'empowerment. Donc quand il le fait, c'est une toute petite partie de l'humanité, mais qui capte, qui absorbe, qui mange la substantifique moelle humaine du grand nombre, et parfois de couches très spécialisées. Et ça, on voit bien qu'on a tourné une page, qu'on arrive vers quelque chose de dangereux, et en fait, ça n'a rien d'étonnant. Rien, ici-bas, ne se maintient de façon constante, indéfiniment. Cette longue séquence de l'histoire des techniques qui a donné lieu à l'empowerment, peut-être qu'elle se termine. Mais la paresse de l'esprit humain, c'est de jamais vouloir voir le nouveau, de toujours décider en fonction de cadres que le passé vous a permis de construire. Et on continue à appréhender les techniques sans essayer de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, d'attendre de ces techniques-là qu'elles nous sauvent, non. Et puis, c'est pas avec votre application iPhone que vous allez éteindre ces méga-feux tels qu'on les a vus en Californie. C'était terrible, c'est-à-dire qu'ils ont atteint une température jamais connue des feux passés. Donc, il y a une espèce d'illusion stupide et débile à attendre des techniques, si vous voulez quelque chose. Et en plus, on peut concevoir les techniques autrement. Quand on regarde du côté du low-tech, ben, on n'est plus dans l'espèce d'accumulation de vitesse et de puissance. On commence à voir les techniques autrement. Donc, ce n'est pas de se dire on n'a plus de techniques, c'est idiot, mais d'arrêter cet imaginaire moderne des techniques orienté vers une toute puissance et toujours vitesse et puissance. Ça non, c'est plus de ça dont on a besoin en matière de technique. On a besoin de techniques sobres, de techniques qui, comme aurait dit Litch, restent conviviales, qu'on peut manipuler, qui ne nous dominent pas, qu'on peut refaire facilement. Dans une époque d'effondrement en cascade, c'est plutôt ce genre de technique. Quant aux connaissances, ben, surtout, on a tout confondu ces derniers temps. Ce qu'on appelait la connaissance, c'était en fait la production d'énoncés les plus vraisemblables possibles. Et certains pouvaient avoir une utilité, d'autres absolument pas, mais ils valaient pour eux-mêmes. Et puis ça, on l'a remisé un peu, en fait, par le néolibéralisme, par les partenariats publics-privés, et on a vraiment orienté la production autrefois scientifique vers une production exclusivement appliquée, et où, en fait, même si les gens ont la même formation, leur activité n'a pas du tout la même fin. Ils ne sont plus là pour produire des énoncés. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs, ceux que vous avez autour de vous, sont là pour produire des machines, pour produire des objets à vendre sur un marché. Et même maintenant, du côté des sciences sociales, on leur demande de vendre des techniques pour telle ou telle chose. Donc, je suis désolé, moi, je n'appelle pas ça de la science. Alors, maintenant, la connaissance les connaissances qu'on a eues, bien, elles ont des moments historiques. C'est vrai qu'avec la naissance de la physique moderne, on a été amené à imaginer que le monde était purement mécanique. Ça n'a pas été génial. Ça nous a amené à croire que nous étions extérieurs à la nature, que le progrès, c'était un arrachement continu à la nature. Et puis ça nous a amené à imaginer que les animaux n'étaient que des machines. Puis on a fini avec les zootechniques du 19e siècle à le faire. Puis maintenant, on le fait vraiment. Hein, quand vous avez des élevages industriels, les animaux sont des machines. Et donc on voit bien que ça nous a fait produire une civilisation de cinglés. Et qu'on voit aujourd'hui bien d'autres manières de se rapporter au savoir. Si vous regardez la permaculture, ben, on mixte la sagesse des aborigènes et le savoir des écosystèmes, etc., etc. On voit les travaux des dernières recherches sur les arbres, ben c'est la même chose. Un savoir scientifique permet de comprendre un savoir traditionnel, archaïque, qui nous disait qu'on ne peut pas planter ou couper un arbre indépendamment du cycle lunaire. Et là, on remaille toutes ces choses. Ben, moi, je vois plutôt à l'avenir une recomposition du savoir avec une nouvelle métaphysique que, si vous voulez, une espèce de fuite en avant à la Google et à la Facebook. Alors, je veux bien qu'on aille sur Mars pour des raisons scientifiques, etc. Ça, si vous voulez, cet imaginaire est idiot, puisque, en fait, ces gens se disent on va aller sur Mars parce qu'on n'est plus capable de rendre la Terre vivante. Donc, la solution, une fois que la Terre est morte, c'est d'aller sur une planète qui est déjà morte. Moi, je comprends pas bien. Je comprends pas bien la logique. Je vois pas pourquoi les gens s'entichent d'un truc aussi idiot. Ben, si c'est mort, c'est pas la peine qu'ils aillent sur une planète déjà morte. Quand on dit ça s'effondre, entendons-nous bien. Pour moi, c'est plutôt un long dégradé et une accumulation de difficultés. Et c'est pas, j'entends pas du tout. C'est pour ça que je parle d'effondrement pluriel et pas au singulier. Pour moi, l'idée que du jour au lendemain, dans tous les super, toutes les Migros de la Terre, on trouve plus son chocolat le matin à 8h53, c'est une connerie. Enfin, je veux dire, les choses vont pas se produire comme ça. Les situations sont toujours très diverses. Vous aurez des poches, des trucs. Bon, mais. Ce qui donne sens, c'est que déjà, on voit qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'éléments de solution. On est capable de produire de la nourriture de qualité, de manière suffisante, en arrêtant de déglinguer les sols, en arrêtant de déglinguer la vie. C'est ce qu'on appelle en général l'agroécologie. Et là, derrière, vous avez la permaculture. On peut dire que c'est un sous-ensemble. Et quand on le fait, assez rapidement, on fait revenir la vie des sols. Il reste dans pas mal d'endroits sur Terre des spots de biodiversité. Si on arrêtait nos conneries, la vie pourrait revenir. On est une période aussi qui est une période fascinante où on redécouvre notre unité avec la vie. On voit s'exprimer ça à travers de plein de choses. Il y a des choses merveilleuses qui se passent. On ne voit plus les êtres vivants animaux et végétaux de la même manière. Ça, c'est quelque chose d'assez fantastique. On voit revenir un peu partout une forme de spiritualité très enracinée dans la nature. Alors ça va chez les catholiques à l'air d'être aussi jusqu'à une résurgence du chamanisme, de l'animisme. Il y a quelque chose d'assez puissant aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a toutes sortes d'antidotes. On voit bien les turpitudes du système antérieur. On sait bien que il faut qu'on reconstruise du collectif. On a des expériences dans les ZAD ou ailleurs, des petits collectifs qui arrivent à faire des choses, des monnaies locales et complémentaires qui commencent à marcher, etc. On voit bien qu'on a des poches possibles de reconstruction. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est plutôt quelque chose d'exaltant. Et quand on est jeune, on a le choix entre s'accrocher au passé et au système qui est en train de s'effondrer, ou au contraire, se projeter dans l'avenir de façon positive, en se disant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais monter? Comment je vais participer à ça? Vous avez des gens, souvent d'ailleurs très diplômés, dont ni les parents ni les grands-parents ne sont agriculteurs, qui se lancent dans des exploitations nouvelles. Il y en a qui vont se lancer dans les low-tech, etc. Ou il y en a qui vont se lancer dans plein de choses. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est fondamentalement important de bien dire ça aux gens. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui va nous redonner de l'allant et nous permettre de reconstruire. Mais on va devoir tâtonner, c'est clair, c'est pas simple, puis on est très nombreux sur Terre.
C'était Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. En marge du film « Tout commence » de Frédéric Chauffat. Réalisation et images, Frédéric Chauffat. Prise de son, Quentin Chevalet. Montage, Naïma Bachéry. Une production Les Films du Tigre, Close Up Film 2023. Plus d'informations sur www.toutcommence.lefilm.com.